VOA Afrique.
Le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour, le monde aujourd'hui, édition du vendredi 3 janvier 2020. En direct de Washington, Idrissa Seloudia
et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
Le général Qassem Soleimani, le très redouté chef de la force Al-Quds des gardiens de la révolution iranien, a été tué dans un bombardement à l'aéroport de Bagdad, en Irak.
Et le Pentagone a confirmé, disant que le président Donald Trump a donné l'ordre de tuer le général Soleimani.
Libye, le président Trump a mis en garde son homologue turc Recep Tayyip Erdogan contre toute ingérence étrangère susceptible de compliquer la situation dans ce pays.
En Algérie, le nouveau président Abdelmajid Tebboune a nommé hier soir son premier gouvernement.
Mali, le secrétaire général de l'ONU déplore les retards politiques et l'insécurité croissante dans ce pays.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. Tout de suite, les derniers développements en Irak. Le général Qassem Soleimani, chef de la force iranienne Al-Quds, a été tué dans une attaque américaine au missile tôt ce matin à l'aéroport international de Bagdad en Irak. Et dans un communiqué publié peu après cette frappe, le Pentagone a confirmé la nouvelle, ajoutant que le président Donald Trump a ordonné cette attaque pour dissuader les futurs plans d'attaque iraniens et que les États-Unis continueront de prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger leur peuple et intérêts où qu'ils se trouvent dans le monde.
Le Pentagone a encore dit dans son communiqué, sur ordre du président, l'armée américaine a pris des mesures défensives décisives pour protéger le personnel américain à l'étranger en tuant Qassem Soleimani, le chef de la force Al-Quds des gardiens de la révolution iranien, désigné organisation terroriste étrangère par les États-Unis. Selon le même communiqué du ministère américain de la Défense, le général Soleimani mettait activement au point des plans d'attaque contre les diplomates et militaires américains en Irak et dans toute la région. Le général Soleimani et sa force Al-Quds sont responsables de la mort de centaines de militaires américains et de la coalition et en ont blessé des milliers d'autres, lit-on encore dans le communiqué du Pentagone.
À Bagdad même, les officiers irakiens ont annoncé aussi la mort d'Abu Mehdi El Mohandis dans les mêmes frappes américaines. Il s'agit du numéro 2 du Hashd al-Shaabi, une coalition de paramilitaires majoritairement pro-iraniens, désormais intégrée à l'État irakien. Elle était derrière l'attaque de mardi contre l'ambassade américaine à Bagdad. Les mêmes officiels disent ne pas savoir le nombre exact de victimes, mais pensent qu'au moins 7 personnes ont été tuées dans les raids américains.
Le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, a prévenu vendredi sur Twitter que la mort du général Soleimani constitue une escalade dangereuse et imprudente et Téhéran a réuni d'urgence son Conseil de sécurité nationale, tandis que Mohsen Rezaei, un ancien chef des gardiens de la Révolution, a écrit également sur Twitter « Soleimani a rejoint nos frères martyrs, mais notre revanche sur l'Amérique sera terrible ».
La force d'élite Al-Quds du général Soleimani était chargé surtout des opérations militaires à l'étranger. Mais qui était Qassem Soleimani, l'un des personnages les plus populaires en Iran et un adversaire redouté des États-Unis et de ses alliés et de leurs alliés? Jean-Roger Bion vous dresse son portrait.
Cet homme de 62 ans à la barbe poivre et sel était aussi devenu ces dernières années une véritable star en Iran avec de très nombreux followers sur son compte Instagram. À l'étranger, certains dirigeants occidentaux le voient comme un personnage central dans les relations de Téhéran avec des groupes comme le Hezbollah libanais et le Hamas palestinien, responsable d'avoir exporté la révolution islamique de l'Iran, de soutenir les terroristes et de mener les guerres de l'Iran à l'étranger d'après l'ancien analyste de la CIA Kenneth Pollack. Pour ses partisans comme pour ses détracteurs, Soleimani, qui a joué un rôle important dans le combat contre les forces djihadistes, est l'homme clé de l'influence iranienne au Moyen-Orient, où il a renforcé le poids diplomatique de Téhéran, notamment en Irak et en Syrie, deux pays où les États-Unis sont engagés militairement. Son influence était ancienne puisqu'il dirigeait déjà la force Quds lorsque les États-Unis ont envahi l'Afghanistan en 2001. L'homme a déployé notamment ses talents dans l'Irak voisin. À chaque développement politique ou militaire dans ce pays, il a fait le déplacement pour agir en coulisses et surtout en amont. Ces hauts responsables des gardiens de la révolution, l'armée idéologique de la République islamique d'Iran, avaient également raconté avoir passé au Liban avec le Hezbollah chiite libanais l'essentiel du conflit israélo-libanais de l'été 2006 dans un entretien exclusif diffusé par la télévision d'État iranienne en octobre dernier. Selon une étude publiée en 2018 par Iran Paul et l'Université du Maryland, 83% des Iraniens interrogés avaient une opinion favorable de Soleimani, classé devant le président Hassan Rouhani et le chef de la diplomatie Mohamed Javad Zarif.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique. L'actualité en Afrique, dans un rapport trimestriel sur le Mali, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a déploré les retards politiques dans l'application de l'accord de paix de 2015 et l'insécurité croissante dans un pays où, note-t-il, les groupes terroristes gagnent du terrain. Dans ce document remis récemment aux membres du Conseil de sécurité de l'ONU et obtenu jeudi par l'AFP, M. Guterres souligne que l'incertitude domine sur l'avenir des réformes politiques alors que des élections parlementaires devraient être organisées au Mali en 2020.
Libye, le président américain Donald Trump a mis en garde hier son homologue turc Recep Tayyip Erdogan contre toute ingérence étrangère dans ce pays au moment où le Parlement turc a autorisé ce dernier à y déployer des forces. Les précisions d'Irene Herman Umbo.
C'était à l'occasion d'une conversation téléphonique qui a permis aux deux dirigeants d'évoquer des questions bilatérales et régionales. Le président Trump a souligné à son homologue turc que l'interférence étrangère compliquait la situation en Libye, a indiqué la Maison-Blanche dans un bref compte-rendu de l'appel. Après le feu vert des députés turcs, il appartient à Recep Tayyip Erdogan de décider s'il va envoyer des troupes ou si le soutien militaire prendra une autre forme. La Libye est devenue le théâtre d'une lutte d'influence entre deux camps. D'un côté, la Turquie et le Qatar, qui appuient le gouvernement d'Union nationale GNA, reconnu par la communauté internationale, et de l'autre, l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et l'Égypte, qui soutiennent le maréchal Khalifa Haftar, qui s'efforce de prendre Tripoli. Washington a appelé ce dernier à mettre fin à son offensive, même si Donald Trump avait donné l'impression de le soutenir par le passé. Les États-Unis accusent par ailleurs la Russie de chercher à exploiter le conflit contre la volonté du peuple libyen, ce que dément Moscou.
En Algérie, le nouveau président Abdelmadjid Tebboune a nommé jeudi soir, deux semaines exactement après avoir pris ses fonctions, son premier gouvernement composé de 39 membres. C'est ce qu'a annoncé le porte-parole de la présidence qui en a donné la composition à la télévision nationale Bagassi Koura.
C'est la première fois que le gouvernement algérien est annoncé en direct de la présidence et par un de ses responsables à la télévision et non via un communiqué officiel. Parmi ses 39 membres, le gouvernement compte 7 ministres délégués et 4 secrétaires d'État. Il compte également 5 femmes selon l'agence de presse officielle APS. Principale originalité, il ne compte pas de vice-ministre de la Défense, poste qu'occupait depuis 2013 et jusqu'à son décès le 23 décembre le puissant chef d'état-major de l'armée, le général Ahmed Gaïd Salah. Le président de la République est traditionnellement ministre de la Défense en titre en Algérie. 4 des 5 principaux ministres figuraient déjà dans le précédent gouvernement, dirigé par Noureddine Bédoui, nommé le 31 mars par le président Abdelaziz Bouteflika, 2 jours avant sa démission sous la pression des mouvements de contestation inédits. Le 28 décembre, le président Tebboune avait nommé premier ministre Abdelaziz Djerad, un universitaire de 65 ans, ancien secrétaire général de la présidence, puis du ministère des Affaires étrangères, et l'avait chargé de constituer un gouvernement.
Eh bien, au Soudan, quelques 50 personnes ont été tuées et 241 autres blessées en 2 jours de combats tribaux au Darfour, dans l'ouest du pays. C'est ce qu'a indiqué hier le Croissant Rouge local.
En Tanzanie, le journaliste d'investigation Eric Kabendera n'a pas pu se rendre hier au dernier hommage à sa mère décédée mardi. Un tribunal a refusé de l'autoriser à se rendre aux funérailles, arguant que cette décision ne relevait pas de sa compétence. Des détails avec Michel Joseph.
Eric Kabendera a été inculpé en août de crimes économiques et blanchiment d'argent. Il est détenu depuis lors et son cas a été ajourné déjà 11 fois devant les tribunaux. Sa mère Verdiana Mujwahuzi est décédée mardi. Une cérémonie funéraire est prévue ce vendredi à l'église catholique de Temeke, un quartier de Dar es Salaam. Des avocats du journaliste ont demandé à ce qu'il puisse y assister sous escorte. Eric prenait soin en permanence de sa mère avant son arrestation. Il est donc important pour lui d'y assister, a justifié l'un de ses défenseurs, Djebra Kambole. Mais le procureur Wang Qiu-Simon s'y est opposé, arguant que le tribunal n'avait pas le pouvoir d'accéder à cette demande. L'arrestation et les poursuites engagées contre M. Kabendera, journaliste indépendant réputé, sont pour beaucoup d'observateurs révélatrices de l'érosion de la liberté de la presse en Tanzanie depuis l'élection de John Magufuli fin 2015.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Nani Talani.
Le PIB de la Tanzanie a augmenté à 56 milliards de dollars en 2018-2019 contre 51 milliards de dollars enregistrés l'année précédente, soit une hausse de 9,74% d'après le rapport annuel de la Banque centrale tanzanienne cité par l'agence Ecofin. Pour soutenir sa croissance économique, la Tanzanie entend miser sur les projets d'infrastructures publiques et manufacturières et les investissements privés. Le Sénégal compte investir 600 milliards de francs CFA pour favoriser l'accès à l'électricité en milieu rural en 2020, selon le chef de l'État Macky Sall dans son adresse à la nation. Le gouvernement sénégalais met aussi en place une stratégie de conversion du gaz en électricité afin de permettre au pays d'être à l'abri des fluctuations des prix de l'électricité dues à la conjoncture internationale dès le démarrage de sa propre production de gaz en 2022-2023. Pour terminer, le remboursement du sol et des intérêts de l'emprunt obligataire du Togo souscrit pour 2018-2023 aura lieu le 26 janvier. Ce remboursement anticipé porte sur un montant de 43,315 milliards de francs CFA, indique un communiqué du directeur général du Trésor et de la comptabilité publique du Togo. Son émission s'inscrivait dans un programme de paiement des arriérés de la dette publique intérieure et de la mobilisation de ressources destinées au financement de projets porteurs.
Les sports à présent avec Eric Manirakidza. Eric, bonjour.
Bonjour Idrissa.
Mondial 2022, la Chine confie ses espoirs à un ancien milieu de terrain d'Everton.
Li Tie a été officialisé au poste de sélectionneur de l'équipe de Chine de football jeudi. Il est chargé par sa fédération de relancer la campagne de qualification mondiale 2022 après le départ soudain de l'Italien Marcello Lippi mi-novembre dernier. Li Tie, qui avait fait déjà un intérim durant le championnat d'Asie Est en Corée du Sud le mois dernier, est un représentant exceptionnel du football chinois qui a été désigné après une procédure ouverte, a expliqué la fédération CFA dans un communiqué. Membre de la sélection mondiale 2022, il y dirigeait le club de Wuhan Zal avant sa nomination.
Le rallye Dakar, l'Arabie Saoudite veut faire du sport un levier d'influence.
Riyad affiche la volonté croissante de se faire un nom dans le milieu du sport avec l'idée d'y recourir comme levier pour améliorer son image sur la scène internationale. Ces derniers mois, le royaume ultra-conservateur a sensiblement accéléré ses investissements dans le domaine sportif. Fin décembre, Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers de la Juventus Turin ont foulé la pelouse du stade de l'Université du Roi Saoud à Riyad pour la Supercoupe d'Italie. Du 8 au 12 janvier viendra le tour de Lionel Messi à l'occasion de la Supercoupe d'Espagne, deux mois après une première prestation de la superstar argentine lors d'un match amical contre le Brésil. Riyad a également accueilli la star de la boxe Anthony Joshua, une preuve de formule électrique, un tournoi exhibition de tennis ou encore des combats de catch. L'accueil du rallye Dakar pour la première fois en janvier du 5 au 17 reste l'un des plus gros coups. Dakar se déroulait depuis plus d'une décennie en Amérique du Sud et doit rester dans la région pour les 5 prochaines années.
Le monde du tennis va lever des fonds pour les victimes des incendies en Australie.
Tout à fait, le monde du tennis qui débute traditionnellement sa saison en Australie va lever des fonds pour les victimes des incendies dans l'île continentale. Après un appel en ce sens jeudi du joueur local Nick Kyrgios. Avant de terminer, Idrissa, vous avez quelques résultats des derniers matchs de la NBA.
Charlotte et Cleveland 109 à 106, Denver et Indiana 124 à 116, Miami et Toronto 84 à 76, Utah et Chicago 102 à 98, Minnesota et Golden State 99 à 84, Dallas et Brooklyn 123 à 111, Oklahoma City et San Antonio 109 à 103, Sacramento et Memphis 128 à 123.
monde. Aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Seloudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Le comité de l'ONU contre la torture exhorte les autorités sénégalaises à ne pas accorder une éventuelle libération à l'ancien président tchadien Hissène Habré. Ce dernier a été condamné en 2016 à la prison à perpétuité pour torture, crimes contre l'humanité et crimes de guerre. Eric Manira Kidza a joint à Dakar le secrétaire exécutif d'Amnesty Sénégal, Sedi Gassama.
Écoutez, nous n'avons pas nous-mêmes rendu visite à Hissène Habré pour constater son état de santé, mais les informations que nous avons reçues de l'état du Sénégal et aussi des médecins qui ont eu à examiner M. Hissène Habré lors de la chute qu'il aurait eue dans sa prison montrent clairement qu'Hissène Habré était en bonne santé et que toute cette campagne avait été orchestrée par son épouse pour simplement espérer obtenir sa libération. Une libération qui n'est pas du tout envisageable. Non seulement les victimes ne l'accepteraient pas, mais le statut de chambre africaine est extraordinaire, parce qu'il faut le rappeler, Habré n'a pas été jugé par une juridiction sénégalaise. Il a été jugé par une juridiction créée par l'Union africaine au sein des tribunaux sénégalais, à l'instar de ce qui a été fait de l'expérience cambodgienne. Donc c'est le tribunal africain qui l'a jugé. Le statut de chambre africaine est très clair. Le Sénégal est lié par la peine. Autrement dit, on ne peut pas libérer Hissène Habré, n'est-ce pas, avant, évidemment, la fin de sa vie. Il doit passer tout le restant de sa vie en prison. Il n'y a pas possibilité de le libérer, de le gracier, d'aménager la peine. C'est totalement exclu en vertu du statut de chambre africaine extraordinaire qui l'a condamné.
Vous soutenez donc cette position du comité de l'ONU contre la torture?
Nous la soutenons parce qu'elle est conforme au droit international. Vous ne pouvez pas commettre des crimes de masse, des crimes contre l'humanité, et ensuite bénéficier d'une libération après seulement quelques années de détention. C'est totalement inacceptable, ça n'a jamais eu lieu, ni pour les criminels de guerre nazie, ni pour les criminels de l'ex-Yougoslavie ou du Cambodge, ça n'a jamais eu lieu.
En cas de grave maladie, est-ce que sa libération pourrait être envisageable ou acceptable?
Je crois que si c'est un Habré tombe malade, il faut le soigner et il faut qu'il reste en prison pour purger sa peine, conformément au statut de chambre africaine. En tout état de cause, si une telle décision devait être prise, elle ne serait pas le fait du Sénégal, elle ne pourrait être que le fait de l'Union africaine.
Est-ce que Amnesty Sénégal envisage à rendre visite à M. Habré pour vérifier son état de santé?
Je crois que nous allons continuer à nous fier à ce que disent les autorités sénégalaises qui n'ont aucun intérêt à cacher la vérité sur l'état de santé de M. Habré. Dans tous les cas, je ne crois pas que M. Habré accepterait de le recevoir, vu qu'il considère les ONG comme étant les principaux responsables de la cabale entre guillemets qu'il a conduit aujourd'hui en prison. Donc, nous pensons que c'est une campagne d'activisme de son épouse, vit simplement, à créer la sympathie au Sénégal, à créer un courant de sympathie au Sénégal pour obtenir sa libération. Nous, aujourd'hui, notre combat, c'est de faire en sorte que sa fortune immense qu'il cache au Sénégal soit débusquée et que l'indemnisation qu'il donne aux victimes, environ 125 millions de dollars, soit évidemment donnée à ces victimes-là en saisissant ses biens et en les mettant en vente.
Eh bien, c'était Sedi Gassama, secrétaire exécutif d'Amnesty Sénégal.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24 heures sur 24.
À N'Djamena, les habitants de la capitale tchadienne se plaignent des musiques diurnes dans les bars et alimentations de la ville. Les tenanciers de ces débits de boissons jouent de la musique toute la nuit, empêchant les riverains de se reposer en toute quiétude, nous dit notre correspondant sur place, André Kotmadjingar.
Moursa et Chagua sont deux quartiers situés dans les communes du 6e et 7e arrondissement municipal, considérés comme des coins chauds de la ville de N'Djamena. Des bars, alimentations et boîtes de nuit sont créés de façon anarchique à proximité des habitations, des écoles et des hôpitaux. Ces tenanciers troublent le voisinage, coup de gueule de quelques riverains.
Je n'arrive pas du tout à dormir parce que là où j'ai lieu, il y a aussi un bar. Pendant que vous venez pour dormir, c'est en ce moment-là aussi qu'il y a des bruits.
Des fois, c'est même à 6h qu'ils commencent à faire des bruits comme ça. Nous avons aussi des malades qui sont non loin des ces alimentations. Même si c'est pour attirer les clients, il faut un peu diminuer les volumes.
Un citoyen tchadien a porté plainte contre Tibégué Iré Landry alias Kekeji, un tenancier de bar pour trouble à l'ordre et à la paix publique, et l'affaire est pendante devant la justice. Mais pour Kekeji, les riverains des rues commerciales doivent se retirer dans les quartiers périphériques pour permettre aux opérateurs économiques d'exercer librement leur activité.
Il y a des quartiers résidentiels où il n'y a pas de tapage. Mais maintenant, prenez l'axe CA7. C'est un peu comme dans d'autres pays. Il y a des rues baptisées comme Abidjan, rue Princesse, des rues de joie un peu partout. Aujourd'hui, ce qui fait aussi l'économie, c'est ce côté-là. Donc, les gens, s'ils ont leur concession tout autour de ces rues, c'est normal de faire cet effort d'aller un peu dans des quartiers reculés pour être tranquille.
Pour le conseiller représentant les personnes handicapées au Conseil économique, social et culturel, Séverin Magitelson, il faut que les maires d'arrondissement prennent leurs responsabilités.
Que les communes, ceux qui donnent l'autorisation d'ouvrir les alimentations, les bars, essaient aussi de se soucier de l'avenir de la jeunesse. Le fait que les bars se multiplient dans les carrés, dans les quartiers, ça ne nous honore pas.
Le premier adjoint au maire du 6e arrondissement, Abakar Kamis, est conscient de la situation et informe qu'il fera sa première bataille de 2020.
Avant la décentralisation, les gens avaient déjà leur autorisation. Maintenant, on est arrivé au moment du fait, on a laissé faire, mais au début de cette année-là, on va commencer la réglementation.
Pour le juriste privatiste Nandigar Mbaila Samdo, ces tapages nocturnes sont punis par le code pénal tchadien.
Étant constitutif d'une contravention de simple police, les tapages nocturnes sont sanctionnés par l'article 518.12 du nouveau code pénal tchadien. Tout contrevenant pourra être puni d'une amende qui va de 2000 à 20 000 francs CFA et d'un emprisonnement qui va jusqu'à 15 jours au maximum.
Ces établissements s'est créé en méconnaissance également de la loi instituant le régime de licence pour le débit de boissons au Tchad. André Kodima Djingar Ndjamena pour VO Afrique.
Votre rendez-vous quotidien 24h/24 sur VOA Afrique, N'Djamena au Tchad sur 93.1 FM.
Libreville au Gabon est victime d'une urbanisation anarchique de ses populations. L'une des conséquences directes de cette situation est la destruction de l'écosystème des aires protégées. Il s'agit principalement des mangroves connues pour réguler l'avancée marine et très utiles à la reproduction des poissons et crustacés. Sur cette question, voici un reportage d'Ismaël Obiangze et Ahmad Beni Evaka, repris ici par Timothée Donangmaï.
Les terrains entiers défrichés de leurs mangroves et donc vulnérables aux inondations, Stéphane Assoumou, l'un des nombreux habitants de ce site du nord de Libreville, vit désormais avec le spectre d'un effondrement de sa cabane.
Quand je suis rentré, il est arrivé deux fois, la marée nous a trouvé, les marées du matin, les grandes marées du matin. En fait, on dormait encore à terre, les lits n'étaient pas encore montés. Avec les matelas, même le sol, deux reprises, ça nous a inondés. Mais j'étais obligé d'ajouter le remblai, là, c'est tranquille.
Tout le long de cet îlot, le milieu naturel des palétuviers disparaît au profit des habitations précaires. Les nouveaux occupants justifient leur installation ici par le difficile accès aux fonciers et par un besoin bien curieux de mieux protéger son écosystème. Jean-Ulrich Somba est président de l'amicale des habitants de Bel Air.
Les poissons que nous prétendons manger, c'est dans cette eau qu'ils vivent et puis c'est dans cette eau qu'on va aller jeter les ordures ménagères. Vous voyez que ce sont les mêmes poissons que nous on va consommer. Et en consommant ce genre de poissons, notre santé court un risque.
Une ONG réputée pour son combat en faveur des aires protégées du Gabon dit travailler sur un projet de reboisement des mangroves le long du littoral gabonais. Elle l'envisage comme alternative au spectacle incongru qu'offre Libreville depuis quelques années. Fabrice Tchango, coordonnateur de l'Alliance panafricaine pour la justice climatique, PACJA.
Il faut étendre ce type de projet pour mettre en place des programmes nationaux ambitieux de reboisement des mangroves vers des zones préalablement identifiées. Mais à côté de cela, il faut accentuer la sensibilisation au niveau communautaire pour inviter les communautés à ne pas construire dans des zones humides.
Pour l'instant, l'urbanisation de Libreville, qui compte environ 1 million d'habitants, reste anarchique. dénonce de concert, géomaticien et défenseur de l'environnement. Pierre Bongolo, géomaticien.
Aujourd'hui, les gens construisent sur les lits de rivière, les gens détruisent les zones humides telles que les mangroves. Le risque, c'est de subir encore de plus en plus les catastrophes naturelles. Le risque, c'est de se retrouver avec des conflits fonciers.
Selon le schéma directeur approuvé par l'État en 2017, l'une des solutions au problème serait de développer les habitations à l'intérieur des terres ou dans quelques poches d'urbanisation encore restantes de la ville. À défaut, revoir la cartographie des aires protégées afin de limiter les installations en zone tampon.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
Ici aux États-Unis, le petit État de l'Iowa, dans le Midwest, est le premier à se prononcer sur le candidat que les démocrates comptent investir pour affronter à l'élection de novembre le président républicain Donald Trump. L'État n'est pas très peuplé ou diversifié comparé à d'autres, mais les caucus de l'Iowa en février, des réunions où les électeurs se retrouvent pour décider de leur candidat favori, peuvent donner une impulsion à une campagne politique ou freiner son élan. Reportage de Kane Farabo, repris ici par Salwa Jafari.
Alors que les températures hivernales commencent à plonger, la campagne pour séduire les électeurs de l'Iowa se réchauffe.
J'adore la saison des caucus dans l'Iowa.
Darrell Morph fait partie des centaines de personnes qui se sont alignées dans le froid pour assister au discours du maire de l'Indiana, Pete Buttigieg, dans un collège local. Alors que Washington se concentre sur la destitution du président Donald Trump, Morph assure qu'il a plutôt d'autres problèmes en tête.
Comment allons-nous maintenir la sécurité dans le monde à ce stade? Et je pense que les gens s'inquiètent beaucoup du climat ici dans l'Iowa. Ce serait une autre préoccupation majeure.
Morph dit que les habitants de l'Iowa veulent que les candidats abordent les questions qui leur importent. Jusqu'à présent, il n'a pas encore décidé qui, selon lui, est le mieux qualifié pour le poste de candidat démocrate.
Pour Buttigieg en ce moment, mais Biden est probablement quelqu'un que je continuerai à suivre, ainsi que Amy Klobuchar.
À quelques semaines des caucus de l'Iowa, les candidats manquent de temps pour gagner des voix. Timothy Hagel est professeur de sciences politiques à l'Université de l'Iowa.
C'est là que vous commencez à voir la course. Certaines personnes montent, d'autres descendent. Peut-être verrons-nous quelques personnes abandonner ou du moins ne pas participer en Iowa. Alors ça devient intéressant.
William Clayton s'est rendu du Wisconsin à Dubuque, Iowa, pour assister à un meeting électoral de l'ancien vice-président Joe Biden. Il votera pour quelqu'un qui battra le président Trump dans son district rural.
Certains d'entre eux sont pour Trump quand il arrive, et il y en a d'autres qui ne l'aiment pas du tout.
Darrell Morph dit qu'il craint que les candidats progressistes comme la sénatrice Elizabeth Warren du Massachusetts ou le sénateur Bernie Sanders du Vermont ne soient pas à la hauteur lors de la présidentielle face à Trump en novembre.
Aux élections générales, il y a énormément de gens qui sont au milieu et ils vont examiner et décider si les candidats sont trop extrêmes.
Les candidats démocrates ont jusqu'au 3 février pour présenter leurs arguments aux électeurs de l'Iowa.
Participez à notre magazine interactif à votre avis du lundi au vendredi à partir des 18h CU sur VOA Afrique. Donnez votre opinion sur tous les sujets, sans tabou, politique, société, culture et bien plus encore. Vous pouvez même suggérer des thèmes sur notre page Facebook. À votre avis, l'occasion de vous exprimer librement du lundi au vendredi à partir de 18h CU sur VOA Afrique et VOA Afrique. À votre avis, c'est votre rendez-vous interactif au quotidien sur VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24h sur 24 sur Internet. voaafrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur voaafrique.com. À tout de suite.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Jimmy Cook. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Seludia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.